Le retour de Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Je suis d'accord à 100%.
Radio X.
Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada en studio, pour répondre à vos questions comme deuxième partie dans le retour à la maison. 418-670-9098. Ça répond bien comme c'est là. Tous les circuits sont pleins, mais Félix en libère un. 418-670-9098.
Yes, on va débuter ça avec Marc qui est sur la 1. Salut Marc.
Salut.
Vas-y Marc, pose ta question.
OK, ben en fait j'ai deux questions. La première c'est, vous croyez pas, avec tout ce qui se passe, les Américains ont changé le chapeau de bord maintenant avec le Canada. Vous pensez pas qu'on devrait avoir une sécurité financière sur la gestion de l'offre parce que ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous autres?
Ça n'empêche pas, là. Les producteurs laitiers vont continuer à être des producteurs laitiers. Et les Québécois et les Canadiens vont pouvoir acheter leur lait québécois, le lait américain ou un lait qui provient d'ailleurs. Lorsqu'on a une ouverture des frontières, c'est là qu'on a de la sécurité parce qu'on a accès à plusieurs produits qui, et donc on ne dépend pas d'un seul produit.
Et de la compétition.
Et on a de la compétition.
Ouais.
Merci à toi. Bon, oui, ta deuxième question, allez-y.
J'ai une question Moi, je reste en Alberta depuis 20 ans, OK? Le prix du 4 litres de lait là-bas est 5,85. Ici, je suis en vacances à Québec, là. Je les vais à 8,85, 9 piastres. Pourtant, la gestion du prix est faite par le fédéral. Pourquoi qu'il y a une différence de prix de même?
C'est la Commission canadienne du lait qui fixe le prix du lait. Le prix est fixé sur le coût moyen des fermes laitières. On a une formule très compliquée pour fixer ce coût-là. Et au Québec, bien, le prix que vous avez, c'est un prix fixé par la Commission canadienne du lait. Dans d'autres provinces, la Commission fixe le prix aussi à travers le Canada. Donc, quand on regarde le coût de production des fermes laitières, pour qu'ils puissent avoir un profit, bien, on fixe le coût par rapport au coût de production.
Et ouais, au Québec, on paye 30% de plus qu'ailleurs.
Ben, ça, c'est la même quantité, là.
C'est 2-4 litres, là. La même affaire.
Trois piastres de différence, c'est 4 litres.
Il y a un marché protégé au Québec, comme je l'ai dit depuis tantôt, là. Imaginez-vous
C'est parce qu'on paye l'Union des producteurs, puis plein de syndicats, puis plein d'affaires au Québec, les autres ne payent pas.
Ben, c'est ce que les producteurs laitiers me disent. Certains producteurs laitiers me disent, effectivement, que le coût pour participer à l'UPA est énorme dans leur bilan, et ils aimeraient bien s'en débarrasser.
OK, l'espèce de syndicat au Québec coûte plus cher qu'est-ce qu'ils ont en Alberta.
Oui, mais en Alberta,
le même 4 litres coûte...
Les producteurs laitiers, il faut le dire, là, sont concentrés au Québec et en Ontario. En Alberta, la production est plutôt dans le domaine du bœuf. Donc, il y a très peu de producteurs laitiers à l'extérieur du Québec et de l'Ontario au Canada. Il y en a certainement, mais il y en a très peu. Donc, c'est Ontario et Québec qui sont les plus grands producteurs canadiens.
OK. On y va avec un autre appel. 418-670-9098, circuit qui se libère.
Hello, Radio X.
Salut, c'est à moi?
Oui, c'est normal. Allez-y, normal.
Écoute, juste pour donner un peu de renseignement, au Québec, on produit à peu près 50% de production laitière au Canada, OK? Ça, c'est un point que, juste pour mettre au clair.
Bien, c'est ce que je viens de dire tantôt. J'ai dit que le Québec...
C'est 37% le chiffre. Vérifiez ce matin.
Oui, on est bien tenté. Maintenant, j'aimerais vous entendre sur un coin. Vous ne parlez jamais du Farm Bill aux États-Unis. Savez-vous combien de milliards en 2026 le Farm Bill donne aux États-Unis, aux producteurs américains en subvention? 45 milliards. L'année passée, en 2025, c'était 30 milliards. Au Canada, combien de subventions sont données aux producteurs sous gestion de l'offre?
Êtes-vous producteur, vous, monsieur, en passant?
Oui, oui.
Non, j'étais un ex-producteur.
Ah, oui, okay. Merci de votre question.
Pour répondre à votre question, il n'y a aucune subvention du gouvernement. La subvention obligatoire vient des consommateurs par le fait qu'ils paient un prix plus élevé. Et les gens pensent que le fédéral n'a pas d'impact là-dessus. Le fédéral ne donne pas de subvention aux producteurs laitiers, mais les consommateurs canadiens et québécois subventionnent les producteurs laitiers. Et si les Américains donnent des subventions si importantes à leurs producteurs laitiers et qu'on peut en profiter, nous, en tant que consommateurs, si ce lait-là vient ici de même qualité, mais moins cher, bien tant mieux pour nous.
OK, on passe à un autre appel. Salut Radio X.
On va aller parler à Jean-Philippe.
Oui, salut, M. Bernier, ça va bien?
Oui, très bien, merci.
Oui, j'aurais une question peut-être un peu plus technique. Dans le fond, du côté de ma famille, nous autres, on a une ferme laitière, puis ils produisent environ, grosso modo, 12 000 litres aux deux jours. Puis, dans le fond, c'est par rapport à l'abolition de... de l'offre. Si ça va-tu impacter les quotas des fermes laitières pour qu'ils arrêtent de gaspiller du lait?
Oui.
Parce qu'ils produisent du lait, puis ils sont obligés de jeter du lait à cause de l'histoire des quotas. Ça abolit-tu en même temps les quotas de graines de gras?
Oui, vous avez raison là-dessus. Il y a du lait qui est jeté régulièrement parce qu'effectivement, si vous dépassez votre quota, vous ne pouvez pas vendre ce lait-là et on s'en débarrasse autrement. Donc, c'est une perte.
De quelle façon?
De quelle façon? On l'envoie dans les égouts.
Carrément. C'est du lait perdu.
C'est du lait perdu, effectivement. Ça arrive et l'UPA fait en sorte qu'on ne sache pas ça, mais c'est une vérité. Vous avez raison d'en parler. Et il faut dire aussi que les producteurs... laitiers doivent avoir un quota et le quota bien varie. Je pense que c'est aux alentours de 25 000, 30 000. Vous pouvez me corriger aujourd'hui là, mais donc pour pouvoir vendre le produit d'une vache, le lait d'une vache, il faut avoir un petit papier qui nous donne le droit et ce papier-là, c'est le quota. Donc, et le quota est très cher. Et donc, en abolissant la gestion de l'offre, il n'y a plus de quota et ça permet justement aux producteurs laitiers d'économiser énormément parce que le fédéral va être dans une position de racheter ces quotas-là. Et donc, quand on abolit la gestion de l'offre, le fédéral, dans la proposition qu'on a fait, ben nous, on dit au fédéral, vous devez racheter les quotas au prix, à la valeur au livre. C'est de l'argent qui va rentrer dans les poches des producteurs laitiers, l'argent qu'ils vont pouvoir utiliser pour s'automatiser, devenir plus productifs, et ils n'auront plus à payer ces quotas-là. Ils vont recevoir de l'argent du fédéral, et c'est ça la période de transition. Et après ça, bien, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, vendre leur lait sur le marché québécois ou sur d'autres marchés.
Merci à vous. Sébastien, sur le texto, veut savoir, il veut entendre l'opinion de Maxime Bernier sur les négociations en cours. Peu de confiance envers Carney. Il ne semble pas avoir de carte de stratégie derrière ça.
Bien, moi, ce que je dis, c'est très difficile de négocier avec le président Trump. On le voit. Là, actuellement, j'espère que les négociations vont se terminer et qu'on va pouvoir avoir une entente de libre-échange, mais il faut mettre ça dans son contexte. Avant 1988, on n'avait pas de libre-échange avec les Américains. C'est sûr que l'entente de libre-échange depuis 1988 a créé de la richesse et a été profitable pour nous. Et là, ce qu'on entend de M. Carney et de certains gens, et donc le chef du Parti conservateur aussi, qu'on devrait, si jamais le président Trump impose des tarifs, qu'on devrait imposer de contre-tarifs et d'avoir des mesures de représailles.
Mais ça pénalise les Canadiens.
Ben moi, je suis contre ça parce que c'est l'escalade. On escalade le dossier et sachant que le président Trump est imprévisible, il est irrationnel et il est erratique. Donc, c'est sûr qu'il va certainement imposer d'autres mesures. Et ça, le Canada... On est un pays, notre économie est 10 fois plus petite que celle des Américains. On ne peut pas gagner une guerre commerciale, et ça, je le disais durant la dernière campagne électorale, et c'est encore le cas aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que si on n'a pas d'entente...
Est-ce que les dés sont déjà joués?
On va le voir dans quelques heures. On va le voir dans quelques heures. Et donc, si on n'a pas d'entente, moi, je pense que c'est pas la fin du monde économiquement. Oui, ça va avoir un effet sur nous si on impose des tarifs.
L'acier, l'aluminium, l'agriculture, la foresterie, la production laitière, c'est touché ce soir, là, à partir de minuit, jamais il n'y a pas d'entente.
Effectivement, mais le pire serait d'imposer des contre-tarifs.
Ouais,
parce que là, Trump pourrait réagir autrement. Mais ce qu'il faut faire, nous, considérant tout ça, c'est d'essayer d'avoir une économie qui soit plus productive. Et donc, si on n'a pas d'entente, on a des cartes à jouer ici au Canada pour les entreprises canadiennes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être plus productif. De quelle façon? De permettre aux entreprises de garder un peu plus de leur argent pour pouvoir qu'ils puissent investir dans l'automatisation. Exemple, plus d'impôts sur les gains capital, un taux unique d'imposition pour les entreprises, on diminue la réglementation, on fait en sorte d'attirer des capitaux, d'attirer de l'investissement pour créer cette richesse-là. C'est ce qu'il faut faire. Par exemple, on le dit depuis longtemps, un vrai libre-échange à travers le pays. Mais il faut dire que si Trump impose des tarifs, ça va Et ça va nuire à l'économie américaine aussi.
Ah oui, parce que c'est des tarifs contre sa population.
Effectivement, les gens le comprennent.
Des taxes.
Les gens le comprennent, ça. Et nous, imposer des contre-tarifs, c'est nous qui vont payer. Les prix de ces biens-là vont augmenter et on a de l'inflation au Canada. Ça va être encore pire pour les consommateurs. Donc, il faut justement avoir une entente, mais pas à n'importe quel prix. Et si on n'en a pas, le message est... On n'impose pas de contre-mesures et on fait ce qu'on doit faire à l'interne pour augmenter la productivité des entreprises.
On va au téléphone. Salut Radio X.
Oui, on va déjaser avec Alain sur la 4. Hello.
Salut Alain, c'est à toi.
Oui, allô?
Oui, vas-y Alain.
Oui, monsieur, moi, vous avez été en Alberta. J'ai déjà appelé, moi, tu sais, une fois. Là, j'appelle pour la deuxième fois. J'ai été parti d'ici pendant quasiment 30 ans. J'ai été 21 ans en Alberta, j'ai fait 5 ans à Toronto, tu sais, de la guerre. J'ai juste une question à vous poser.
Allez-y.
OK. On paye une taxe partout, à part du BC, le Québec, puis il y a une autre province. Mais pourquoi, pourquoi pas enlever un gouvernement ici qui ne nous sert à rien?
Mais moi, ce que je veux
c'est gros, ça, là.
Mais moi, ce que je veux faire, c'est plutôt le contraire. Faire en sorte que le gouvernement au fédéral... justement, arrête de s'ingérer dans les champs de juridiction de compétences provinciales, que ce soit au Québec ou dans d'autres provinces. Je veux un gouvernement à Ottawa qui soit plus petit,
minimaliste,
qui s'occupe de ses propres compétences, de ses propres responsabilités constitutionnelles, et ça va justement aider. Puis je veux un gouvernement, les gouvernements où ils doivent être plus efficaces et fonctionnelles, c'est dans les provinces. Donc, votre idée, moi, j'y adhère à moitié en disant, bien, c'est le fédéral qui est trop gros, c'est le fédéral qui, premièrement, n'est pas compétent dans ses propres champs, n'est pas efficace et dépense de l'argent qu'il n'a pas pour dicter aux provinces quoi faire. Il faut que le fédéral s'enlève du chemin et c'est ce qu'on
fait. Ouais,
c'est un peu le modèle américain, ça. Les États, beaucoup de pouvoir, puis le fédéral, c'est minimaliste, là.
Bien, le fédéral minimaliste, effectivement, ouais. Mais le modèle américain, sous Trump, on le voit, et d'autres gouvernements, l'exécutif, c'est-à-dire la Maison-Blanche, a pris beaucoup de pouvoir avec... Et ils sont aussi... Ils ont un gros gouvernement fédéral à Washington. Nous, avant ça, il y a plusieurs années, le gouvernement était plus petit, mais maintenant, le gouvernement à Washington s'ingère aussi un peu partout. Et ce que Trump fait, le fait régulièrement en signant des décrets qui imposent sa vision.
Et une autre question, M. Bernier. Oui. Est vraiment importante, OK? Là, tant que le crise de fédéral, ils vont rentrer des tamouls ici à pas jeter, OK? Ils vont toujours voter pour.
On va couper là-dessus. Moi, j'embarque pas dans cette affaire-là. Mais par contre, au niveau de l'immigration,
oui.
Là, il faut passer un message. Il faut qu'il se passe quelque chose.
Bien, faire respecter nos lois d'immigration. C'est ce qu'on fait pas actuellement.
Sous l'ère Trudeau, ça a été exagéré.
Mais c'est la même chose sous Carney. Il a diminué un peu en ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires. Mm-hmm. Il a diminué le nombre. Nous, on veut abolir ça. Pourquoi un programme de travailleurs étrangers temporaires lorsqu'on est en période de chômage est élevé, surtout chez les jeunes? Mm-hmm. On n'a pas besoin. Le programme de travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme, on subventionne les grandes entreprises et donc c'est de la « cheap labor », excusez-moi l'expression anglaise, pour les grandes entreprises. C'est de la main-d'œuvre à bon marché pour les grandes entreprises. Et moi, ce que je dis aux grandes entreprises, si vous avez besoin de gens, vous avez juste à augmenter votre offre salariale, puis vous allez voir des Québécois et des Canadiens y aller. Donc, plus de programmes. On élimine ce programme-là, sauf dans le secteur agricole, parce qu'on a toujours besoin des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agricole. Mais ailleurs, on élimine ça. C'est pas ce que Carney fait. Et l'autre, c'est les étudiants internationaux qui sont ici. On a ouvert la porte à ça. Il y a eu de la fraude, surtout du côté de l'Inde, des faux collèges, des faux cégeps qui se sont établis et on leur promettait...
Qui deviennent camionneurs.
On leur promettait la citoyenneté canadienne après avoir fait un cours. Ils ne veulent plus quitter et il faut faire respecter nos lois. Le contrat, lorsque quelqu'un vient ici pour étudier un étudiant international, c'est un contrat à court terme. Tu viens ici, t'étudies, lorsque tu as ton diplôme, tu quittes. On n'a jamais eu de problème avant. Mais là, ces étudiants-là, font des manifestations un peu partout, surtout en Alberta et en Ontario, et ils disent « on a le droit de rester au Canada ». Non, vous n'avez pas le droit. Le contrat est un contrat à court terme. Vous avez eu votre diplôme, quittez votre pays. Et il faut avoir le courage de faire la déportation, donc une déportation massive de ces illégaux. C'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas ce que le gouvernement fédéral fait et ce n'est pas ce que prône l'opposition, le parti conservateur sous Pierre Poilievre.
Merci beaucoup, Maxime Bernier, d'être prêté à l'exercice de répondre aux questions des auditeurs.
Ça me fait plaisir.
Très apprécié. À la prochaine.
Ben oui, merci.
Merci bien.
Le retour.
Je vous assure.
De Radio X.
Tout va très bien.
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.